T'es parti à quelle heure de chez toi ce matin de Namur?
Très tôt, à 8h, à 8h05 j'ai pris le train pour venir ici.
Donc tu savais que le bar Le Coq c'était ici, place Fernand-Coq?
Ah oui, parce que je l'ai repéré sur Google Earth.
Ouais. Et tu trouvais pas le bar Le Coq?
Ça a été renseigné sur une autre adresse, près de la Bourse.
Oui.
Mais j'ai vu qu'il y avait le café qui s'appelle le café Le Coq.
Oui, au centre-ville.
Qui est à Fernand-Coq, ici, là,
oui,
à la place Fernand-Coq.
En fait, ici, avant, ça s'appelait chez Mickey.
Ok.
Ouais. Alors, tu voulais me parler de quoi? Je ne sais pas pourquoi tu voulais me voir.
C'est très simple.
Oui.
Voilà, je viens exprès pour faire une interview de toi, Michel. C'est Michel Angeli.
Oui,
et moi,
bonjour.
Je suis Christophe Ouiguer de réussirdanslecinéma.com. Voilà, je vous propose de rencontrer Michel Angeli, qui est acteur de cinéma. Acteur, et il a des choses très intéressantes à dire. Une sorte de témoignage de son parcours. Michel, bonjour.
Bonjour, Christophe.
Comment tu vas?
Bah, écoute, toujours sur mes deux jambes. Hein.
Ah bah, ouais. tant mieux.
Bon,
et en fait, bon, toi, tu es acteur.
Oui.
Tu es acteur. Mais est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant? Est-ce que tu as fait le conservatoire? Voilà, des choses comme ça.
C'est-à-dire que mon parcours est assez très long, parce que ça a commencé quand j'avais 7 ans. On commence à 7 ans?
Oui,
bon.
Peut, oui.
Alors, à 7 ans, quand je commençais à faire un peu de théâtre à l'école, j'étais assez doué, j'aimais bien, mes parents aimaient bien, ils me poussaient à faire un peu de théâtre. Et donc, quand j'étais gamin, de mes 7 ans jusqu'à mes 15 ans, j'ai joué beaucoup de petites pièces de théâtre, puis on a fait des tournées après, quand je commençais à avoir 14-15 ans, on faisait des tournées un peu partout dans la région, en Auvergne, parce qu'il faut que je précise, je suis Auvergnat de souche, et voilà, et je viens d'un tout petit hameau dans la montagne qui s'appelle Malaleuge, et c'est à côté d'Olmé, c'est dans le Puy-de-Dôme,
d'accord.
Et donc voilà, et depuis tout petit, j'ai toujours voulu être acteur, et mes parents, aussi bien mes parents que mes grands-parents, quand j'étais petit, ils me demandaient toujours « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et moi, je disais « ben moi, je veux être acteur. » Seulement, bon, mes grands-parents, mes parents, ils disaient « non, c'est pas un métier, on vit pas bien avec ça, il faut que tu choisisses un métier qui te fasse vivre et tu peux faire du théâtre à côté. » J'ai dit « non, je veux faire acteur. »
Bon. Alors c'était vraiment une vocation.
Ah oui, c'était ouais. Une vocation. Je crois que c'était inné chez moi, hein, parce que déjà chez moi, quand j'étais gamin, j'aimais bien déconner, raconter des blagues, raconter des histoires à mes frères et sœurs. Et mon père, il me faisait faire du théâtre. Donc Molière, Racine, tout ça. Et donc on devait, même des pièces de théâtre que mon père fabriquait à partir des fables de La Fontaine. Et donc, au lieu de jouer les animaux, on remplaçait les animaux par des êtres humains.
Oui.
Tu comprends ce que je veux dire?
Je vois.
Et donc, on jouait des petites pièces de théâtre sur cette base-là. Et donc, de fil en aiguille, donc, eh bien, bien sûr, dans ma vie, il a fallu que je fasse toutes sortes de boulots pour pouvoir gagner ma vie. Parce que c'est vrai que, de toute façon, là, j'avais pas vraiment d'argent pour me payer des cours dans des écoles de théâtre, de cinéma, même des stages, tout ça, donc ça coûtait cher. Donc comme je n'avais pas les moyens, ben, je faisais des petits boulots. Et j'ai fait une cinquantaine de petits boulots dans ma vie, de toutes sortes. Et puis, à côté de ça, je suivais des cours. Je pouvais me payer des cours, mais des cours d'académie, tout ça, pas cher.
Oui.
Et je suis arrivé en Belgique, donc ça fait 25 ans que je suis en Belgique.
D'accord.
Et donc, quand je suis arrivé en Belgique, j'ai commencé à fréquenter l'Académie des Verts, qui était, mon prof, c'était Daniel Nicodème. Et donc, pendant 7 ans, là, j'ai suivi des cours d'art dramatique, diction, déclamation. Et à côté de ça, je donnais des répliques à des acteurs du conservatoire, enfin, les futurs acteurs du conservatoire.
C'est ce qu'on appelle des panouilles.
Voilà, exactement. Bravo, merci, tu m'enlèves le mot de la bouche. Et puis, j'ai fait, à côté de ça, beaucoup de figuration au départ. C'est comme ça que, de fil en aiguille, on m'a donné un petit mot par-ci, par-là à dire.
Oui.
Donc j'ai commencé par les figurations, après silhouette,
oui.
Après les petits mots. Hein, je commençais à avoir des petits rôles. Et puis, petit à petit, ben, voilà, on m'a confié des rôles un peu plus importants.
D'accord.
Et je suis arrivé à avoir des premiers rôles dans des longs métrages, enfin, dans des, c'est des seconds rôles, hein, mais avec mon nom à l'affiche, donc voilà.
C'est sympathique.
Voilà, c'est sympathique, donc ça porte bien, hein, ça...
D'accord. Ça donne et tu as des noms de films que tu pourrais citer?
Bien sûr, bien sûr. Donc oui. Les trois derniers longs métrages dans lesquels j'ai eu mon nom à l'affiche avec un des premiers rôles. Mm-hmm. Donc il y a Cage d'Olivier Massé de Passe.
Ah oui.
Et ensuite, ça, on l'a tourné en 2006. Oui, 2006.
C'est un très beau film.
C'est un très très beau film, magnifique. Très très chouette, magnifique. Très très bien traité, le sujet est vraiment extraordinaire. Et moi, ça a été un bonheur de tourner dans ce film parce que non seulement le réalisateur, l'équipe était très chouette, mais en plus de ça, l'ambiance sur le plateau, je vais dire...
Bonne ambiance de travail.
Très très très, très bonne ambiance. Et puis voilà. Bon. Ensuite, le deuxième long métrage, c'était Le Prince de ce Monde, réalisé par Manuel Gomez. On l'a tourné aussi en 2006-2007, et là j'avais un des premiers rôles. Et là je jouais à côté de Lio, Jean-Claude Dreyfus, Laurent Lucas, et alors c'était la grosse rigolade tous les jours sur le plateau, parce que c'est...
Un beau casting en tout cas.
C'est un chouette casting, oui. Et c'est, en plus c'était ils ont été tellement géniaux, tout le monde, on a tellement rigolé, on s'est tellement amusé sur ce plateau que c'était un vrai régal, quoi. Et puis, malheureusement, le film n'a pas eu le mérite escompté parce que, malheureusement, je crois que la promotion n'a pas été faite comme il se fallait, par manque d'argent.
Oui.
Parce que s'il y avait eu un peu plus d'argent, parce que déjà sur ce film, on avait très très peu d'argent,
oui.
Donc tout le monde a travaillé en touchant un cachet, mais... un petit cachet, hein. Et puis il y en a certains qui étaient à la participation.
D'accord.
Voilà. Ce qui fait que petit à petit, eh bien, ce film, voilà, ce film est sorti au Festival du Film Fantastique en 2008, si j'ai bien bonne mémoire, ou 2009. En 2009, il est passé au Festival Fantastique. Et donc il a été critiqué, mais... je trouve que c'était injuste de la manière dont il a été critiqué, parce que les personnes qui ont critiqué ce film, c'était des cinéastes, prétendus cinéastes, je veux bien préciser, qui se croyaient arrivés, qui se croyaient savoir ce qu'ils racontaient, alors que j'avais l'impression qu'ils n'avaient rien compris du tout à l'histoire. Et la plupart des gens qui étaient sur ce festival, qui ont vu le film, et ben c'est 80% des gens qui ont aimé, mais qui ont pas... Il y a eu une interview de certaines personnes, mais seulement le public, le grand public, n'aime pas forcément être interviewé.
D'accord.
Les seules personnes qui ont posé des questions et qui ont cassé un peu le film, c'était ces fameux cinéastes intello qui... vraiment...
Des critiques de cinéma, par exemple.
Des critiques de cinéma. Qui croient avoir tout vu, qui croient tout connaître. Et pour moi, c'est ça qui est triste, parce que, je veux dire, quand on a très peu de moyens pour faire un long métrage, qu'on l'amène au bout, et qu'on le casse gratuitement, sans donner vraiment de choses concrètes, de critiques concrètes...
Et constructives.
Oui. Et constructives, je trouve que c'est pas aider le cinéma. Par contre, c'est bon... On aime ou on n'aime pas ce film, je suis d'accord, mais c'est un film qui a un message, c'est tiré d'une histoire vraie déjà, et je pourrais en parler pendant des heures de ce film.
Oui, mais on n'est pas obligé d'en parler pendant...
Mais Le Prince de ce Monde, par contre, ce qui est très curieux, et c'est ça que je trouve très bizarre, comment ça se fait qu'il n'a pas marché en Belgique, alors que quand on va sur YouTube, on a déjà plus de 35 000 vues. Quand on tape Le Prince de ce Monde sur YouTube, on a déjà 35 000 vues. Alors comment ça se fait qu'en Belgique, il n'est pas sorti dans les salles et il n'a pas été exploité par la télé? Il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. Donc voilà, c'est ça que je veux dire.
Donc, il n'a pas eu du succès parce qu'il n'a pas été assez mis en avant et on a un peu, on n'a pas mis beaucoup de moyens dans le côté promotion du film. Alors c'est sûrement...
Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a un côté promotionnel, c'est sûr et certain. Mais je veux dire, comment ça se fait?
Tu comprends ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire.
Alors, maintenant, parce que je pourrais en parler pendant des heures de ce film. Il me tient à cœur ce film, pourquoi? Enfin, comme tous les films dans lesquels j'ai joué, évidemment. Mais Le Prince de ce monde, pourquoi? Parce que ce film a été fait par un artiste. Au départ, c'est un artiste très complet. Il est peintre, il est sculpteur. Il a réalisé énormément de courts-métrages. Il a fait deux longs-métrages. Un moyen métrage et voilà, et c'est un gars qui a travaillé à la Cambre, il a donné des cours dans une école du nord de la France comme dessinateur, peintre et directeur d'acteur, scénariste, etc. Et c'est un gars qui est très complet et voilà, c'est un artiste et il a fait ce film avec son cœur d'artiste.
Avec ses tripes.
Et avec ses tripes. Et c'est ça que moi je trouve ça scandaleux qu'on casse un film qui a le mérite d'être vu par beaucoup de gens. Quand moi je parle de ce film à des gens, ah, j'aurais bien aimé voir ce que tu me racontes, parce que moi je raconte souvent l'histoire de ce film à des gens.
Oui.
Ah, j'aurais bien aimé voir le film, tu vois.
Ah bah oui.
Et donc j'ai dit, bon, mais tu peux le voir sur YouTube, etc.
Oui. Oui.
Bon, le film est sorti en DVD à la Fnac. Et voilà, seulement...
Il s'est vendu.
Ouais. Seulement, comme ils n'avaient plus de stock,
tout
le stock est parti, des DVD, il a été vendu.
Ils n'ont pas pu recommander,
parce que, bon, apparemment, il y avait des problèmes par rapport à...
Au stock.
Par rapport à passer une commande, enfin bref. Voilà. Le dernier long-métrage, donc le troisième et dernier long-métrage dans lequel j'ai eu un des premiers rôles,
ça s'est coupé ?
Ouais, ça va se couper certainement.
Mais lequel, celui qu'il allait annoncer ou
ouais,
celui
juste qui... maintenant.
Juste maintenant, ok, tu reprends là, juste là.
À partir d'où je...
Le troisième film où j'ai eu aussi un rôle...
Ah, la phrase
de maintenant.
Le troisième... de maintenant.
Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, ok, d'accord.
Voilà. Ah, il y a une mouche.
le troisième film...
On peut y aller ?
Ouais. Et le troisième film... et le dernier long métrage dans lequel j'ai joué, c'est Marbistar, donc réalisé par Dominique Smet et produit par Dominique Dubuisson. C'est un long métrage Carolo qui a été fait avec les moyens de tous les citoyens Carolo. Donc c'est une coproduction de 740 coproducteurs et c'est un projet qui a été fait vraiment avec les moyens du bord, mais avec une telle énergie et une telle force et un tel amour pour que ce film sorte.
Et avec conviction aussi en plus.
Comment ?
Avec beaucoup de conviction aussi.
Et beaucoup de conviction que ce film a super bien marché pour le tourner. Ce qui fait que ce film, il a mis quand même un certain temps pour sortir, parce que évidemment, comme beaucoup de films en Belgique, on n'a pas les subsides pour. En plus de ça, ce film, c'est comme un film indépendant avec des coproducteurs. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est avec les tax shelters, donc chaque citoyen achète une part du film, et donc pour être déduit des impôts. Donc chaque personne, chaque citoyen qui a acheté une part récupérera son argent par rapport à la vente du film, par rapport au nombre d'entrées. Donc le film, d'ici la fin de l'année prochaine, normalement devrait arriver au million d'entrées, à un million d'entrées je pense.
Oui.
Suivant le côté médiatique qui va être fait.
D'accord. C'est vrai qu'il y a une démarche. Non. C'est vrai qu'il y a une démarche promotionnelle de la part de l'équipe de Marbistar,
voilà.
À la fois le producteur et la réalisatrice.
Exactement.
C'est vrai qu'ils démarchent énormément.
Tout à fait. Ils démarchent énormément. Ils marchent beaucoup. Et pour dire qu'ils marchent beaucoup, c'est que ce film qui est sorti en avril 2014, il est encore à l'affiche à Charleroi et on est en novembre 2014. Donc ce qui fait que ce film, bon, il y a eu des interruptions par moment, parce qu'évidemment il fallait qu'il réorganise des salles, etc. Mais je crois qu'on arrive aux alentours de 15 000 entrées, ce qui est correct.
J'ai entendu dire qu'à Louvain-la-Neuve, il était aussi à...
Il était aussi à Louvain-la-Neuve, en projection, mais alors il est aussi en projection à partir du 1er décembre jusqu'au 11 décembre 2014
à Charleroi.
Et donc il faut absolument que les gens aillent voir ce film pas pour faire de la promo ou de la pub. C'est parce que ce film est tellement touchant et tellement fort au point de vue émotionnel, au point de vue de plein de choses super intéressantes qui apprennent à montrer quelque chose de ce que fait les artistes à l'heure actuelle. Comment c'est l'histoire de cette nana. Hein.
Est-ce que tu peux parler du pitch de ce film, un bref résumé de l'histoire?
Mais c'est-à-dire que je ne veux pas trop raconter.
Ce sans dévoiler la fin, évidemment.
Hein. Oui, mais je ne veux pas trop raconter parce qu'il y a des gens qui écoutent là.
Ah ouais, c'est
y a
c'est,
du monde,
là. Ah ouais, c'est vrai, il y a du monde.
Et donc, mais je ne veux pas trop raconter l'histoire parce que je veux laisser la surprise aux gens de découvrir.
C'est vrai qu'il y a une belle finale.
Il y a une belle finale.
C'est surprenant.
L'histoire en elle-même est très forte, est très belle, c'est émouvant, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a de l'amertume, des sentiments, des regrets, etc., etc. Donc c'est tout un mélange comme ça, très fort, qui fait que chaque personne va se retrouver à travers tous les personnages du film. C'est ça qui est très, très fort. C'est ça que j'ai trouvé très fort dans ce film, c'est particulièrement ça. C'est que aussi bien la réalisatrice que le producteur ont réussi à trouver les bonnes personnes pour jouer chaque personnage du film.
Exactement.
Et moi, quand j'ai commencé le casting pour Mardi Star, je connaissais Dominique Smet déjà depuis 15 ans. Je l'avais croisé sur des festivals et à l'époque, je l'avais dragué. Oui, je l'avais dragué et puis elle avait trouvé ça amusant parce que bon, elle voyait que j'étais un petit peu une espèce de fou furieux comme ça, un petit peu déjanté, et elle rigolait bien, mais bon, il n'y avait rien de... c'était juste par amusement, quoi. Et puis bon, et puis on s'est perdu de vue, et un beau jour, je reçois un coup de fil, quelques années plus tard, et puis elle me dit, oui, coucou, c'est Lison et tout, est-ce que tu te rappelles de moi et tout? Lison, moi j'en ai connu, hein, des femmes, après, et j'ai dit, Lison... ah oui, Lison, oui, mais ça me dit quelque chose, Lison. Oui, mais c'est moi, on s'est croisés, tu m'avais dragué sur les festivals, tout ça, machin. Ah oui, ça y est, oui, d'accord, je me rappelle maintenant. Et elle dit, voilà, je t'avais parlé d'un projet à l'époque. Déjà à l'époque, elle me parlait d'un projet de long métrage. Donc ça fait quand même quelques années avant. Hein.
Ça fait longtemps qu'elle est sur un projet.
Voilà, qu'elle était sur un projet, elle ne savait pas trop quoi, mais elle était sur un projet.
Ouais.
Et donc voilà, elle me demande de venir passer un casting à Charleroi. Et puis je me suis dit, putain, aller à Charleroi avec mes problèmes, parce que j'ai des problèmes de hanche, tout ça pour marcher, ça, c'est pas évident. Mais maintenant ça va beaucoup mieux, hein. Maintenant d'accord. Je peux presque même courir. Hein. Maintenant ça va beaucoup mieux.
Et sur le tournage, ça n'a pas été trop pénible, ça, physiquement
Justement, sur le tournage, mes problèmes pour marcher, eh ben, j'étais curieux, c'est que ça allait vachement bien. Parce que je crois que c'était dans la tête aussi.
Okay.
Je veux dire, comme on aimait ce qu'on faisait, comme j'avais créé un personnage, j'étais tellement amoureux de mon propre personnage que j'ai réussi à sortir de moi-même et à ne plus boiter par moments.
Ah, et oublier le truc.
Mais on voyait quand même un peu le déhanchement, parce que ça, il n'y a rien à faire. Okay. Mais la souffrance, tout ça, avait disparu.
C'est génial.
Et c'est un remède extraordinaire, hein, quand on travaille comme ça. Enfin bref, mais j'ai été très aidé sur le tournage, ça il n'y a pas à dire. J'ai eu beaucoup d'aide quand j'avais des problèmes, quand ça forçait un peu, quand je devais grimper un talus comme ça pour sortir d'une barque. Et je devais vraiment monter naturellement le talus.
Ah, c'est la scène où tu fais la bise à Marby.
Voilà, en arrivant.
En arrivant, oui.
Ok. Et donc, là, j'ai été aidé. Parce qu'il y a des moments, là, ça, même quand on n'est pas handicapé, quand il y a de la boue, ça glisse.
Ça glisse et tout. Ouais.
Vas-y, quoi. Ouais. Et puis, ça s'est super bien passé. C'était génial. Et puis, alors, voilà. Et puis, alors, oui, je parlais donc du casting. Et quand j'ai passé le casting, j'ai dit, ouais, bon... quand je vois tous les acteurs qui se sont présentés au casting, c'était tous des acteurs belges très connus, enfin, très connus, oui. Et je me suis dit, je ne vais pas citer leurs noms. Pourquoi ? Parce que, bon, on ne doit pas faire ça entre collègues, de dire qui avait sur le casting et qu'eux, ils n'ont pas eu le rôle.
Ah oui.
Tu comprends ?
Oui.
Et c'est pour ça que moi, Je suis quelqu'un qui est entre nous, parce qu'il y a des gens qui écoutent, mais entre nous, hein, moi je ne suis pas quelqu'un qui casse les collègues.
D'accord.
Moi j'aime bien les collègues, même si les collègues sont jaloux quand il a le rôle et pas l'autre. Mais bon, c'est pas mon truc ça. Okay. Moi, tant mieux, il a le rôle, tant mieux, c'est bien.
Donc, et maintenant, avec Narbi, Narbistar, tu as des projets de long métrage à préparation aussi dans le futur ?
Alors, j'ai des projets, on en a toujours. De toute façon, quand on est dans ce métier, on a toujours des projets. Par exemple, là, je suis en écriture sur 3 longs métrages.
D'accord.
Donc, en co-scénariste, avec 2 autres personnes qui m'ont dit de garder leur nom en secret, donc je respecte.
Bien sûr.
Et donc, le premier long métrage, c'est un western. C'est une histoire qui se passe dans les années 1830-1860, donc sur cette tranche des 30 ans, là. C'est une histoire de vengeance. Et donc, je ne vais pas en raconter plus parce que
non,
si,
trop,
voilà, si je commence plaisir, à parler de ça, ouais, alors je déballe toute l'histoire et c'est pas bon.
D'accord.
Et donc, ensuite.
Donc, un western et puis l'autre.
Alors, le deuxième long métrage, c'est l'histoire d'un type qui débarque dans un magasin, je ne dirais pas quoi comme magasin.
D'accord.
Et que le patron du magasin a disparu.
D'accord.
Et c'est tout.
Voilà, ça c'est le début.
Ça c'est le début.
Ça c'est l'histoire. La suite.
Ça c'est l'histoire du film.
Et le troisième ?
Et le troisième, donc, c'est un film sur des gars à l'heure actuelle qui fréquentent le même café, qui boivent des coups, qui déconnent toute la journée, ils savent pas quoi faire, ils sont au chômage, machin, et ils essayent de provoquer la vie à faire des trucs corrects, hein, pas des trucs malsains.
Pas fou, mais.
Non. Mais des trucs corrects, mais ils n'y peuvent rien, ils sont emmenés dans des trucs assez scabreux où ils n'auraient pas dû mettre le nez.
D'accord.
Enfin bon, et ils sont tellement naïfs, oui, ces gars-là, que pour finir, ils finissent par devenir des genres de héros à la fin, parce que grâce à eux, ils sont... voilà. Donc ça, c'est l'histoire. Et voilà, donc ça, c'est les 3 longs métrages.
D'accord, ok. Alors maintenant, j'ai des questions un peu plus ciblées à te poser, toute simple. C'est, pour ceux qui nous regardent et qui sont acteurs, jeunes acteurs et qui recherchent des castings, qui ont des difficultés parfois à en trouver et qui ont du mal à réussir leur casting et tout. Pour réussir son casting, voilà, qu'est-ce que tu proposerais comme solution, comme méthode ? Est-ce que toi, quand tu vas passer un casting, est-ce que tu as une méthode à toi ?
Alors, la méthode est très simple. Quand vous passez un casting, quand on vous convoque pour passer un casting, la seule chose que vous devez bien vous dire, c'est que je passe le casting sans chercher à avoir le rôle. Si vous pensez absolument il faut le rôle, vous ne l'aurez pas. Parce que si vous ne l'avez pas, vous serez très déçu. Alors que vous serez concentré à avoir le rôle. Donc c'est très mauvais. Donc ça c'est la chose à ne pas faire. La deuxième chose, c'est quand, avant d'aller au casting, il faut le faire à chaque fois. Je sais qu'il y a beaucoup de comédiens qui ne le font pas. Moi je le fais à chaque fois. C'est pour ça que je suis souvent pris. Il faut, premièrement, s'abstenir d'alcool, de cigarettes, de joints, de drogue. Enfin, je ne me drogue pas, hein, c'est pas la question, mais je veux dire par là que toutes ces choses-là, il faut l'éviter. Évitez de manger aussi, pas vous gaver, avoir le ventre lourd, non, très mauvais. Café, pas de café. Vous devez faire des exercices de souplesse, des exercices de respiration. Il y a des techniques, hein, vous pouvez voir sur internet, il y a des endroits où on peut voir ce genre d'exercice pour se relaxer. Donc vous faites ça 5-6 minutes avant votre casting. Vous pouvez même le faire dans la salle d'attente, sauf s'il y a d'autres comédiens qui vous regardent, qui se moquent de vous. Mais ne vous inquiétez pas d'eux, occupez-vous de vous, c'est le plus important. Et relaxez-vous. Alors la chose très importante, si vous avez du texte, il faut que le texte soit sur le bout des doigts. Parce que si vous connaissez, que vous bafouillez, alors
c'est juste le parti du texte.
Tu parles trop, toi.
Tu pourras recoudre, ouais, après.
Je vais faire un autre plan.
Okay. Il y a tellement de chipotage et tout, hein, au niveau montage, que je crois que je vais te laisser faire. Parce que si je le fais et tout, ça va être... Et puis bon, je préfère être surpris par le résultat. Si je le fais moi-même, je serai pas surpris.
Voilà, là, c'est bon.
Merci. Donc juste cette partie-là.
Je vais refaire le clap et on reprend le texte, désolé. Voilà.
Donc il faut que le texte soit su, sur le bout des doigts. Ouais. T'es bien, okay. Ça.
Allez, c'est parti.
Donc, il faut que le texte soit connu sur le bout des doigts. Pas de bafouillage, pas d'hésitation. Vous devez l'avoir en bouche, comme si vous avez l'habitude de le dire depuis des siècles. Et que c'est quelque chose de très naturel que vous avez en vous. Donc, pensez aussi à votre personnage, même si c'est un petit rôle. Essayez de créer dans votre tête qui pourrait être ce personnage, même si vous avez que quelques phrases à dire. Essayez de le construire, ce personnage. Essayez d'avoir, peut-être, essayez de vous faire remarquer en prenant vous-même, en vous créant un personnage vous-même. Je ne sais pas, vous êtes très doué, par exemple, pour faire le beg. Eh bien, présentez-vous comme un personnage qui est doué pour faire le beg, mais qui n'est pas forcément beg. Vous êtes doué, par exemple, pour raconter des blagues, pour être mime, pour être magicien, pour être tout ça. Essayez de garder tout ça. Pour les rôles, maintenant, c'est ça que je dis. Ça tient à rien, en fait. Les réalisateurs choisissent un personnage. Ils ne savent même pas eux-mêmes lequel ils vont prendre à l'avance. C'est après le casting qu'ils se disent « Ah, c'est lui !» Mais à l'avance, ils ne le savent pas. Sauf, évidemment, les acteurs qui ont pignon sur rue, qui sont des grandes stars, eux, on écrit les scénarios pour eux. On dit « scénarii » d'ailleurs, excusez-moi. On écrit les scénarii pour eux, pour ces gens-là. Mais autrement, pour les autres, ben, voilà, c'est un coup de chance. Et voilà. Moi, à chaque fois que je vais faire un casting, je me dis dans ma tête, je l'ai ou je ne l'ai pas, je fais mon boulot et je le fais avec amour et sérieusement et bien. Et si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Hein. Autrement, vous devenez dépressif, vous devenez malheureux si vous n'avez pas le rôle.
Donc, on culpabilise parce qu'on n'est pas choisi.
Et on culpabilise parce qu'on n'est pas choisi. Tu comprends ?
Oui, oui. Tu as autre chose à rajouter par rapport au casting, etc. Non ? Donc, texte su, en résumé, hein. Texte su, et on va recommencer. Et voilà. Il est arrivé au bout de son truc ?
Ouais.
Ah, ok, ça va.
Ça, c'est bon.
Donc, je veux dire, en résumé. En résumé, c'est voilà, texte su, etc. Oui, parce que moi-même, pour un casting que je faisais passer dans le temps, les acteurs.
J'ai pas parce que.
Non, non, mais c'est à toi que je parle. C'est à toi que je dis ça. En tant que réalisateur, j'ai vu que le gars, il est bizarre comme ça. Il y a un casting et il maîtrise même pas le texte.
Ah oui, mais ça, c'est bien.
Ça, c'est bien. Ça durait deux fois plus déjà.
Et bien, c'est clair que je n'avais pas travaillé avant. D'ailleurs, il n'y avait pas de personnage, il n'y a rien qui ressortait, quoi. Si le mec il est occupé à aller sur ce que tu veux, le réalisateur qui te projetait sur le personnage, ça peut devenir.
Ouais,
c'est pas possible. Non, c'est à toi que je le dis entre nous là.
Ouais, mais...
Le temps qu'elle redémarre le truc.
Ah ouais,
tu crois que c'est intéressant à dire quand
même. Oui, très bien. Ouais. Ça, c'est un très bon sujet.